question d'islam par Ghalib Bensheir. Aujourd'hui, nous parlons d'histoire, notamment de l'histoire de l'islamisation. Certains parlent de conquête de ce que nous appelons aujourd'hui le Maghreb et même une partie de l'Andalousie actuelle. C'est cette islamisation d'Afrique du Nord qui nous intéresse et ce sera avec Mona Hashim. Bonjour Mona Hashim.
Bonjour.
Je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes une dame de lettres, essayiste, écrivain, je ne féminise pas le titre, et vous êtes passionnée d'histoire. Vous vous intéressez effectivement à l'histoire d'une manière générale. Je lis dans la quatrième de couverture de votre récent ouvrage que l'histoire est une fable convenue. Une des définitions de l'histoire serait une archéologie du temps présent. Elle est aussi une anthropologie du passé avec un regard critique sur les systèmes de culture et de pensée. Et vous, vous êtes intéressé à l'histoire de l'islamisation d'Afrique du Nord. C'est vrai que c'est quelque chose qui est débattu, controversé. Il y a une histoire officielle et vous, vous voulez revenir là-dessus.
Oui, bonjour. La citation, elle est de Fontenelle, oui. Elle est attribuée à Napoléon. Effectivement, tant de fables véhiculées et qui sont accolées à finalement toute l'histoire de toutes les nations. Alors, pour le cas de ce livre, il s'intéresse de manière globale à l'histoire du Maroc dans un ancrage beaucoup plus large sur le plan géographique qui englobe à la fois la Méditerranée et l'Afrique. Et qui englobe une période assez longue qui va de la préhistoire, de toute cette période anti-islamique qui est méconnue, jusqu'à 1907 pour le cas du Maroc. Alors évidemment, il y a toute une partie commune avec les autres pays du Maghreb, ce qui est tout à fait évident, des peuples frères qui ont vécu le même parcours. Et puis c'est le même peuple, il s'agit des Berbères. Ce peuple, dans les frontières, vont depuis la Méditerranée jusqu'au fleuve Niger, et puis de l'Atlantique jusqu'à la vallée occidentale du Nil. Donc beaucoup de points communs jusqu'à pratiquement la fin de l'empire Almohad, qui a vu l'éclatement, comme on le sait plus tard, en plusieurs dynasties qui se sont partagées le Maghreb, correspondant plus ou moins aux frontières actuelles que nous connaissons, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie.
Alors si je comprends bien et d'emblée, l'étendue historique, ça va de la préhistoire et ça s'arrête jusqu'à la fin de la dynastie Almohad. D'ailleurs, un de vos prédécesseurs qui connaît bien ces sujets est venu nous parler spécifiquement de l'Empire Almohade. En revanche, du point de vue de l'étendue géographique, c'est l'actuel Maghreb et même au-delà, en dehors de ces frontières artificielles héritées de la période dite coloniale. Et on parlera, bien entendu, de la presqu'île ibérique. C'est donc cette à la fois étendue géographique, spatiale, plus on a bien fixé les coordonnées temporelles aussi.
Voilà. Donc, évidemment, la question de l'islamisation est extrêmement importante parce que, justement, parmi les mythes véhiculés, c'est que cette islamisation aurait été un long fleuve tranquille et que les révoltes berbères se résumaient à quelques mouvements sporadiques éphémères. Or, on sait que c'est absolument pas du tout le cas. Évidemment, là, il y a plusieurs confusions autour de la question. La première, c'est qu'il y a une confusion entre arabisation et islamisation qui est très courante. Évidemment, l'islamisation a été assez précoce. Elle a accompagné pratiquement le premier mouvement de la conquête qui s'est effectué dès le règne du deuxième calife, plus précisément du troisième calife, ce qu'on appelle les Khulafa al-Rashidoun, les califes bien guidés, donc le calife Othman. Mais l'arabisation, quant à elle, est beaucoup plus tardive. Elle n'a jamais été générale. La preuve, c'est qu'il y a encore des populations berbérophones au Maghreb très vivaces. Et ce mouvement de la conquête a aussi accompagné ou amené dans son sillage des tribus berbères orientales qui ont embrassé l'islam et qui, elles-mêmes, ont contribué à l'islamisation, que ce soit au Maghreb ou en Andalousie. Et là, il y a le cas de plusieurs tribus. Par exemple, le grand groupe des Huara qui va participer à la conquête de la Sicile auprès des Arlabides, qui va participer à la conquête de l'Espagne auprès de Tahrir ibn Ziyad. Mais, et là, j'arrive à une deuxième confusion, ou une, peut-être une erreur d'appréciation, en ce qui concerne les Berbères, du fait que peut-être qu'ils forment un groupe monolithique sur le plan ethnique. Là, on peut en discuter. Ibn Khaldoun a fait des grosses ramifications, de grandes divisions des groupes berbères, mais disons, plus ou moins sur le plan ethnique, disons que c'est plutôt homogène. Mais sur le plan de leur affiliation politique et de leur appartenance religieuse, c'est absolument pas du tout le cas, dans le sens où certains étaient alliés aux Arabes dès le début de la conquête, et on va le voir avec des groupes berbères extrêmement puissants, par exemple les Marawa, qui dès le règne de Othman ont formé des principautés fidèles aux Omeyyades sans faille depuis leur siège à Damas jusqu'au califat de Cordoue. C'est le cas par exemple pour le royaume de Neukour qui s'était établi au Maroc, dans le Rif central, correspondant plus ou moins à la région de l'Husseima comme capitale. Et c'est le cas aussi pour les Beni Khazar, qui sont aussi des Marawa et qui ont fondé le royaume de Tlemcen, une principauté à Tlemcen qui était fidèle. Mais d'autres groupes se sont révélés de farouches opposants à la présence arabe. Donc c'est très complexe et on ne peut pas procéder voilà, de manière comme ça, dichotomique, opposant systématiquement, mettant dans le même bloc les Berbères d'un côté et les Arabes de l'autre.
Beaucoup de noms propres ont été cités, la toponymie des lieux, les tribus berbères, et donc nous comprenons d'emblée que tout cela est complexe. Si je devais noter deux choses, c'est que la fameuse conquête ne s'est pas faite simplement, et pour cause, c'est que ailleurs en Orient, même jusqu'en Arménie, sans parler des pays du Levant, etc., la conquête, tout en distinguant arabisation et islamisation, se sont faites dans des périodes beaucoup plus courtes que par rapport à ce que nous appelons maintenant le Maghreb ou l'Afrique du Nord, la Numidie de l'époque. Et puis vous dites que ça a commencé sérieusement et tout particulièrement avec le troisième calife, de ceux de la rectitude spirituelle, qu'on nomme ainsi, il est bien guidé. Donc on va donner tout de suite une date. Lui, il a gouverné ou régné entre 644 et 656, le calife Othman. Et donc vous pensez que ça a commencé là? Avec qui? Comment? Dans quel but? Est-ce que c'était pour étendre la foi, la parole de Dieu, ou simplement parce que les hommes sont les hommes, ils veulent être des monarques et avoir le plus de terres possible?
Je pense que ça fait partie d'un projet politico-religieux, tout simplement. Et au fait, depuis le règne du deuxième calife Omar ibn al-Khattab, les conquêtes musulmanes ont commencé à s'étendre à l'ouest de l'Arabie. Et c'est comme ça qu'on a vu la conquête de l'Égypte par le général Amr ibn al-As, qui avait abouti à la fondation de la ville de Foustat, près de la future Caire, Al-Qahira, et qui allait s'imposer comme une base arrière pour la conquête musulmane et qui va permettre aux Arabes de pousser un petit peu plus loin vers la Cyrénaïque qui est proche de l'Égypte sans rencontrer de réelle résistance parce que évidemment les Byzantins étaient sur des points disséminés sur la côte. Et puis le projet va continuer avec Othman lors d'une première campagne qui va voir à ce moment-là la résistance des Byzantins représentée à l'époque par le patrice Grégoire. Donc je pense que c'est un projet politique tout simplement, pour répondre plus exactement à votre question, et qui ne va s'achever qu'avec l'occupation de toutes ces terres, mais sur une longue période, puisque, comme on a dit, la résistance va être farouche du côté berbère.
Oui. À l'époque, les projets étaient davantage d'ordre politique, mais l'adjuvant religieux a mené à galvaniser davantage de troupes ou parce que la chose politique était teintée de confessionnalisme. Et comme on se croyait dépositaire de la vérité, c'était toujours bon aussi de dire qu'on est là pour propager la parole de Dieu.
Exactement, la volonté missionnaire est souvent accompagnée de goût de rapine, hein, il faut être franc là-dessus.
Il y a un homme qui est le premier à mener ces raids, un certain Abdallah ibn Abi Salah. on dit qu'il s'est islamisé, puis il a abjuré sa religion et puis il est redevenu musulman. C'est curieux de donner le commandement à un homme comme ça.
Je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre eux. Et justement, on en parlait tout à l'heure quand on parlait d'islamisation et d'arabisation. Bon, lui, dans son cas, je pense qu'il était arabe déjà d'origine. Et effectivement, c'est lui qui avait mené la grande expédition en 647 et qui avait abouti à la grande victoire contre les Byzantins, représentés à l'époque par le patrice Grégoire, qui lui était en dissidence religieuse contre l'empereur de Constantinople, dans le sens où il était orthodoxe, alors que l'empereur était adepte du monothélisme. Et donc ces dissidences byzantines ont fragilisé évidemment l'empire romain d'Orient, de la même manière qu'il y avait de très lourdes impositions fiscales. Tabari parle de quelque chose comme 300 livres d'or qui auraient été exigés.
Tabari, mort en 923, un chroniqueur postérieur à l'époque dont nous parlons maintenant.
Oui, mais de toute façon, en matière de conquête musulmane, je pense que l'historiographie, elle commence pratiquement 2 siècles après la conquête. Et donc, c'est très difficile. Et en plus, au départ, elle est égyptienne et proche-orientale. Et il a fallu attendre pratiquement le 11e, 12e siècle pour voir des noms s'imposer en Ifriqiya, enfin, en actuelle Tunisie, ou disons en Maghreb de manière générale, avec notamment un nom comme Ibn Raqiq de Kairouan, qui a, lui, donné une autre lecture de la conquête, cette fois maghrébine.
Donc, Quelles sont les sources, pardon, Mouna Hachim? C'est Al-Baladouri, par exemple?
Oui, tout à fait.
Ibn Idari, et puis Ibn Khaldoun, l'historien, le sociologue, oui, comme on dit plus tard.
Oui, exactement. Pour la première phase égyptienne et proche-orientale, il y a Ibn al-Hakam qui est égyptien, al-Baladouri qui est de Bagdad.
Et ils sont du 9e siècle.
Ils
déjà.
Sont, oui, exactement, ils sont du 9e siècle, donc c'est quand même 2 siècles après la conquête et c'est très, très difficile d'avoir des données précises et claires, sans oublier évidemment les soubassements idéologiques, parce que c'est des Arabes proches, enfin ils ont une autre conception sur cette conquête. Mais comme on a dit, à partir du 11e siècle, c'est encore un autre regard, cette fois maghrébin, et qui va s'étendre jusqu'au 14e siècle avec un grand nom comme Ibn Khaldoun, qui a fait son ouvrage monumental, Kitab al-Aibar, livre des exemples, traduit notamment par le baron de Slane, qui est une référence en la matière.
Mouna Hachim, poursuivant un peu le récit, si je puis dire, oui. On est arrivé où après la Cyrénaïque? On va fonder, pour faire vite, le caravansérail,
oui,
qui s'appellera Kairouan. C'est même une corruption du mot.
Oui, exact.
Et qui sera une sorte de une base arrière, une quoi plus tard?
Oui, alors c'est la première capitale musulmane du Maghreb et donc qui avait été fondée par le général Omeyyad Uqba ibn Nafa' al-Fihri sous le règne du premier calife Omeyyad Muawiya. Et donc à partir de là, moi les versions divergent parce que il y en a qui considèrent que Uqba se serait avancé le plus loin possible, atteignant les rivages de l'Atlantique et qu'il aurait été au sud jusqu'au Drac, alors que pour d'autres auteurs, il serait limité à quelques points du littoral, arrivant peut-être même jusqu'à Tanger, qu'il aurait assiégé, et laquelle Tanger se trouvait à l'époque aux mains du fameux comte Julien, bon, qui s'appelle Julien dans les versions arabes, qu'on donne à la fois pour étant goth ou byzantin, et que d'autres considèrent comme étant un berbère du groupe Romara, christianisé. Mais à ce moment-là, la résistance berbère va commencer à s'affirmer de manière claire parce que parmi le lot des berbères convertis, il y a un nom important qui est Qusayla Axel, qui d'abord va commencer à résister contre les tribus arabes. Avant de rejoindre, il avait été vaincu à une grande bataille près de Tlemcen, la bataille d'Alurit. Et ensuite, à sa défaite, il va rejoindre le rang de l'armée victorieuse pour se retrouver auprès de Uqba ibn Nafa'. Mais au vu des inimitiés qui se trouvaient entre deux grands chefs arabes, Uqba ibn Nafa' et Abu Muhajir Dinar,
parce que Uqba a été démis de ses fonctions à un moment.
Exact, tout à fait.
Et son rival l'aurait maltraité aussi.
Exactement, tout à fait. Et vu que Qusayla avait été proche de Abu Muhajir Dinar, Uqba s'en était vengé, donc en s'attaquant directement à ce grand chef. D'ailleurs, il y a une anecdote très significative qui résume un peu les faits et qui montre un petit peu cette manière disons, insidieuse de gouverner et de traiter les grands chefs berbères nouvellement convertis. Et selon cette anecdote qui est rapportée dans beaucoup de chroniques médiévales, on ne connaît pas exactement sa véracité, mais elle donne une petite idée. On dit que Orba aurait exigé de Qusayla qu'il écorche lui-même une bête, ce qu'il avait refusé de faire, vu son rang de grand chef de, et puissant chef de tribu. Et donc, il avait désigné un de ses subalternes pour le faire. Orba insistait pour que ce soit exactement lui qui effectue cette tâche, jugée dégradante. Et puis, finalement, il s'exécute. Et pendant ce temps-là, à chaque fois, il prenait sa main ensanglantée qu'il passait sur sa barbe, ce qui a été interprété par un chef arabe présent et même par Abu Muhajir Dinar qui se trouvait dans les fers comme étant une énorme erreur parce qu'elle allait faire naître la rancune dans le cœur d'un homme et que c'était incompatible avec le traitement digne réservé par le prophète au chef soumis et qu'il fallait qu'il se prépare à sa perfidie. Et c'est exactement ce qui s'est passé parce que Qusayla a profité de la première occasion pour prendre la fuite, pour reprendre ses correspondances avec les chrétiens, avec les Byzantins exactement. Et à ce moment-là, il a guetté le retour de Aqba, le fondateur de Kairouan, vers l'Est, son retour vers l'Est, pour le prendre dans une embuscade près de Biskra. Et donc, à ce moment-là, il a été tué. Donc, dans les manuels, c'est quand même étonnant de voir que, évidemment, on va dresser un portrait extrêmement élogieux sur Aqba ibn Nafi', le conquérant du Maghreb, le fondateur de la ville de Kairouan. De l'autre côté, nous avons un des portraits les plus sombres sur fameux...
C'est pour ça que vous êtes là, c'est pour avoir cet éclairage non apologétique, en tout cas. À côté de Biskra, il va y avoir le lieu où il y a eu cette bataille où Orba a été exécuté. Ça donnera lieu à une autre petite ville qui s'appelle Sidi Orba.
Tout à fait.
Entre-temps, Qusayla prendra Kairouan,
oui,
quelques années.
Exactement.
Et alors, donc, la suite?
Eh ben, il va régner pratiquement 5 ans sur Kairouan, base permanente pour les troupes musulmanes. Et les chefs arabes, pendant ce temps-là, vaincus, prenaient carrément la fuite en Orient parce que ils étaient incapables de soutenir la grande révolte. Donc, parce qu'il faut savoir que ces tribus berbères ont commencé d'abord par se convertir à l'islam pour l'abjurer. D'ailleurs, Ibn Khaldoun a dit que les berbères ont abjuré pratiquement 12 fois au cours d'un siècle. Et au fait, on comprend un petit peu pourquoi. Parce qu'on arrive avec un message qui est censé être de nature universelle, égalitaire. Voilà, exactement. Et on se retrouve avec un système népotique qui transforme cette terre en terre de butins et d'esclaves, en soumettant les grands chefs et puissants chefs à une politique d'humiliation. Et il faut savoir aussi, ça fait partie dans les livres, en général on raconte effectivement l'histoire du Maghreb en accent principalement sur l'avènement de l'islam. Et encore pire, on a tendance à présenter ces peuples comme ayant vécu une sorte de jahiliya, une ère de l'ignorance anti-islamique, où ils ont été, je veux dire, dans les ténèbres avant de connaître la lumière de la foi. Or, c'est absolument faux. Et l'histoire démontre qu'ils ont été partie prenante dans les événements majeurs qui ont marqué la Méditerranée. Ils ont joué un grand rôle auprès des puissances régionales Rome et Carthage. Ils ont formé des royaumes, tout ce qu'il y a de plus policé et civilisé, baigné de civilisations gréco-latines, carthaginoises, etc. Et évidemment, ils ont connu aussi, pas seulement ces religions, disons, païennes, qu'on a souvent mis en avant, mais ils ont connu aussi des doctrines spiritualistes de facture monothéiste, notamment le judaïsme, le christianisme, principalement sous sa branche arianiste, proclamant la transcendance divine, et qui a préparé le terrain spirituel à l'adoption de l'islam. Et c'est ce qui explique pourquoi l'islam a été aussi accepté, parce que souvent on dit que les conquérants musulmans ont été vus comme des sauveurs.
Ou des libérateurs.
Ou des libérateurs. Alors qu'au fait, sur le plan spirituel, le terrain était déjà prêt. Certains en ont vu une secte chrétienne. Thank you.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec Mona Hashim, passionnée d'histoire, et nous évoquons l'islamisation de l'Afrique du Nord, de l'Ifriqiya, le nom qui donnera, qui s'étendra à l'ensemble du continent, alors qu'à ce moment-là ne concernait que l'actuelle Tunisie, puis la Numidie, puis bon, toute l'Afrique du Nord. Mona Hashim, nous sommes arrivés à la prise de Kairouan par Kousseïla pendant 5 ans. Cette islamisation, en la distinguant de l'arabisation, je fais attention à ce que vous nous dites. Comment ça s'est poursuivi? Parce que j'attends l'irruption d'un personnage important, un personnage féminin.
Oui.
Et le contexte religieux, il y a aussi l'exarque de Carthage d'un côté, puis ce qui se passe sur cette étendue de terre, le donatisme.
Tout à fait, à côté de l'arianisme, exactement. Oui.
Du coup, je vous laisse en moins nous parler de ce personnage extraordinaire.
De la Kahina.
De la Kahina.
Voilà, bien sûr. Alors après la
prise.
Alors
c'est une prêtresse, une prophétesse.
C'est pour situer un peu donc le contexte, puisqu'on parlait de la prise de Kairouan et puis les Arabes qui reviennent encore à la charge. Et là, après l'épisode d'un général important qui s'appelle Zuhair ibn Qais al-Balawi, on va avoir l'arrivée de Hassan ibn Nu'man, qui est.
On a mis un peu d'ordre dans l'Empire Omeyyade qui a connu 4 califes en si peu de temps. Et c'est par la suite, quand les choses se sont stabilisées, on a voulu reprendre la conquête vers l'ouest.
Voilà, exactement. Donc lui, il arrive à prendre Kairouan. Et après cette période-là, il est confronté évidemment à la présence de la Kahina, qui est effectivement appelée. La Kahina, c'est un surnom, c'est la prêtresse. Son vrai nom serait Dihya. Elle aurait été chef d'une grande tribu berbère, le groupe des Jalawa, installé dans les Aurès, mais avec des ramifications très importantes au Maroc, puisque il y a même, sur le plan de la toponymie, il y a encore des lieux qui s'appellent Jalawa. Et donc, après la prise de Kairouan, elle a regroupé ses troupes et elle avait mené une farouche bataille contre les Arabes, la bataille qui s'appelle la bataille des chameaux, parce qu'il semble que ses archers se cachaient entre les jambes des chameaux.
Ils tiraient par en dessous des jambes, oui.
Voilà, exactement, provoquant la fuite des Arabes de l'Ifriqiya jusqu'en Cyrénaïque, puisqu'ils les ont poussés à se retrancher davantage vers l'Est. Mais après cette victoire, la Kahina, qui avait pris nombre très important d'esclaves, capturé beaucoup de guerriers, dont un neveu qui va jouer plus tard le rôle d'un espion, Khalid Khalid Muyazid, exactement. Et donc, à la suite de cette victoire, et voyant les forces arabes quand même assez importantes qui n'allaient pas tarder à répliquer, elle a pratiqué, semble-t-il, une désastreuse politique de la terre brûlée qui aurait amoindri ses forces et qui aurait provoqué une sorte de mécontentement de
ces... ceux qui se sont sédentarisés parce que les nomades, ça leur était complètement égal. Je voulais vous poser une question, Mona Hashim.
Oui.
Tout ça est passionnant. Mmh. On dit qu'elle avait deux fils qui se seraient islamisés aussi.
Exact.
Donc, les combats n'étaient pas sur les questions confessionnelles, ils étaient sur presque des appartenances ethniques.
Tout à fait. Oui, c'est ça. Vous savez, cette histoire, elle est l'histoire de la Kahina, elle est instrumentalisée autant par les chantres de la conquête musulmane que par ses opposants idéologiques. Et l'histoire de la Kahina se mêle à la légende, donc il est très difficile. Il y en a qui disent qu'elle est juive, d'autres considèrent qu'elle était adoratrice de, je sais plus, comme idole en bois, etc., comme il ressort dans certaines chroniques médiévales. Et donc là, pareil pour ses enfants, il est très difficile parce qu'il semble que sur son lit de mort, elle aurait été tuée pendant une bataille, elle aurait été enterrée dans un puits qui s'appelle encore apparemment Bir al-Kahina, le puits de la prêtresse, et donc elle aurait, semble-t-il, demandé sur son lit de mort que ses enfants rejoignent le rang de l'armée victorieuse. Alors après, comment démêler les écheveaux de
Surtout qu'on s'est écrit deux siècles plus tard,
exact, tout à fait.
Minimum.
Voilà, tout à fait.
Bien, alors nous poursuivons. C'est peut-être sa politique de terre brûlée qui lui a valu la défiance, en tout cas le mécontentement d'une bonne partie des Berbères. Pour faire simple, en réalité, les choses sont beaucoup plus complexes. Et on est en gros au tournant du 8e siècle, parce qu'on est à 703.
Oui, exactement. C'est 703 qu'elle avait trouvé la mort. Et donc, à la suite de ça, bon, on va avoir encore un grand général qui va arriver, qui est Moussa ibn Nusayr, qui est un général yéménite et qui va finalement poursuivre cette conquête et cette islamisation en enrôlant dans ses rangs un ensemble de tribus berbères et probablement des personnages de haut rang comme Tariq ibn Ziyad.
Voilà, vous l'avez évoqué en début d'entretien.
Oui.
Tariq, le fameux prénom Tariq ibn Ziyad. D'aucuns disent qu'il serait un affranchi de Moussa.
Tout à fait.
On n'est pas sûr, mais...
Oui, tout à fait.
Alors, il y a un autre personnage, indépendamment de l'homophonie, qui serait Tarif.
Ibn Malik,
qui a donné son nom à Tarifa.
Tout à fait.
Si vous pouviez nous dire un mot, parce qu'on pense que c'est Tariq qui a franchi le détroit des colonnes d'Hercule, qui plus tard portera son nom, mais en réalité c'est plutôt Tarif qui franchit une année plus tôt, en 710.
Exactement, c'est exactement ça. Il était parti avec... c'était une petite expédition de quelques hommes qui avaient franchi le détroit pour se retrouver à Tarifa, à laquelle Tarif a donné son nom. Et puis... si je peux me permettre cette digression au sujet de Tarif, parce que c'est quand même important, et justement ça rejoint la logique de ce qu'on disait tout à l'heure sur ces puissants chefs de tribu. Lui, il appartient à la tribu des Barwata, qui...
Une tribu berbère
qui existait des temps des Romains, et il semble que ça soit les fameux Bakouettes qui sont signalés par les historiens de l'Antiquité latine, et qui déjà étaient connus pour leur résistance contre les Romains, et donc les menaçant les limes de l'Empire. Et donc ce chef de grande tribu, après avoir embrassé l'islam, après avoir participé à ses conquêtes, comme c'est le cas pour beaucoup de chefs de tribus berbères, il a été outré par le népotisme des gouverneurs omeyyades. Et il va adopter la doctrine kharijite, comme c'est le cas pour un ensemble de chefs de tribus. Il avait fait partie auparavant, en 738.
Dites-nous s'il vous plaît simplement un mot sur la doctrine kharijite, parce que nos auditeurs connaissent qu'il y a les sunnites, les chiites. Ils oublient le plus souvent qu'il y a encore une troisième section, si je puis dire.
Exactement, tout à fait.
Et celle des sécessionnistes, les sortants, les kharijites.
Exactement. Le khawarij, je veux dire littéralement les sortants, parce que après justement cette grave crise de succession survenue après la mort de Othman et qui avait vu par ceux qui devaient favoriser l'élection de Ali. Donc il y a eu ce grand schisme entre les musulmans et eux, anciens partisans de Ali, ils ont refusé de se prononcer en faveur de Ali ou en faveur de Muawiya qui était gouverneur de Damas et cousin je pense de Othman, du clan Omayyad en tout cas. Et donc ils se sont déclarés Khawarij. Alors c'est considéré comme une secte dissidente, mais c'est une troisième branche de l'islam.
Secte dans son sens premier du terme.
Dans le sens premier du terme, tout à fait. Et donc, elle est caractérisée parce qu'on a dénombré quatre branches au milieu du kharijisme, dont deux sont réputées sanguinaires.
Ou violentes, en tout cas, les soufrites.
Oui, oui, en Orient. Mais au Maghreb, les deux branches qui se sont développées sont connues pour leur égalitarisme, pour leur démocratisme, et c'est en ce sens que ce mouvement va être adopté par les Berbères et il va connaître un très grand succès parce que justement il dit que n'importe qui peut gouverner, quelle que soit sa couleur, quel que soit son rang social. Et donc forcément c'est un discours qui ne pouvait que plaire aux Arabes. Aux Berbères, qui l'ont adopté de la même manière que sous la Rome impériale, ils avaient adopté le donatisme et l'arianisme comme mouvement d'opposition à la fois politique et religieux. Et d'ailleurs, moi j'aime bien cette formule d'un orientaliste néerlandais, Dozy s'appelle, qui avait dit que le kharijisme était une sorte de calvinisme de l'islam qui avait trouvé au Maghreb sa nouvelle Écosse. Et c'est exactement ça, parce que ça a été tellement prisé par les chefs de tribus berbères au milieu du 8e siècle, avec, justement, pour revenir à Tarif, il avait fait partie d'une délégation menée par Meyser al-Mdaghri, qui n'est connu que sous le nom de Al-Haqir, le vil, par les Arabes, et qui avait mené une délégation à Damas avec 40 chefs de tribus pour demander audience au calife et l'interroger sur une gestion qui ne figurait ni dans le livre saint, ni dans la sunna, selon les propos rapportés.
La sunna étant la tradition prophétique.
Exactement, tout à fait, et qui faisait justement que voilà, les Berbères se retrouvaient dans un système d'oppression inimaginable. À la suite de ça, ils n'ont pas été reçus.
C'est parce que l'audience était auprès du calife Al-Walid.
Oui, exactement, directement à Damas. Donc ils n'ont même pas été reçus, ils n'ont pas reçu une suite à leur doléance, ce qui a fini par les convaincre qu'il ne s'agissait pas là du zèle de certains gouverneurs, mais véritablement d'une politique d'État, ce qui a évidemment préparé les esprits à la révolte. Et donc immédiatement à leur retour a éclaté la grande révolte berbère, qui a abouti sur un ensemble de batailles perdues par les Arabes. Il y aura même une bataille où ils ont perdu 10 000 hommes, ce qui correspondait au tiers de l'armée. Et donc les chroniqueurs à l'époque, ils disaient que un tiers est mort, un tiers s'est enfui, un tiers. Donc c'était terrible pour ces grandes forces berbères qui se sont retrouvées comme ça vaincues. Et pour revenir à ce tarif, donc à la suite, parce qu'il a participé, donc on a dit...
Il est très peu connu dans l'histoire, mais nous nous y sommes appesantis à juste raison pour dire que l'histoire a retenu Tariq, mais en réalité, Tarif a préparé un peu le terrain.
Exactement. Et alors, ce qui est marrant avec l'histoire de Tarif, c'est qu'il va se retrancher après ces batailles. Il va se retrancher au Maroc, dans une zone atlantique très large, avec pour foyer Anfa, qui est l'actuelle Casablanca. C'est une large région qui va des deux fleuves frontières, Omar Beha et Bourgrec. Et il va fonder une principauté qui va durer jusqu'au XIIe siècle et qui va être vaincue que par les Almohades. Alors lui, évidemment, à la base, il est kharijite, comme on a dit, du groupe soufrite. Mais ses descendants vont créer une sorte de religion syncrétiste qui va mêler un peu des réminiscences bibliques, musulmanes, et puis des choses un petit peu bizarres. Ils ont créé un Coran en langue berbère, etc. Ils vont être combattus en ce sens pour hérésie. Donc là, c'est juste pour revenir un peu encore à...
Maintenant, poursuivant pour le passage du détroit, jusqu'à présent, on l'appelait les colonnes d'Hercule, parce que ce serait dans les 12 travaux d'Hercule le 10e. Je pense de mémoire que Platon, dans le Timée, parle de l'Atlantide comme étant de ce côté-ci de l'océan, en tout cas indéterminé, et ce détroit y mène, et par la suite on l'appellera le détroit du mont de Tariq. L'année d'après, donc on est en 711, a priori dans la nuit du 27 au 28 avril, il va y avoir le passage.
Voilà.
Sur 400 personnes, ça fait peu, 100 cavaliers et 400 fantassins. Et la véritable bataille, c'est celle de Guadalete, qui aura lieu au mois de juillet, le 19 juillet. Et c'est comme ça que la prise de la péninsule ibérique a commencé.
Oui, et il semble qu'ils aient eu le soutien de ce fameux comte Julien, voilà.
Parce que sa fille aurait été
déshonorée par Roderick.
Par Roderick, voilà.
Oui, exactement.
qui est le comte de Ciotat.
Voilà. Bon, d'accord. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Donc, mais je pense que effectivement, les Arabes, ils ont dû recevoir de forts appuis hein, des opposants à l'époque, d'autant qu'il y avait une sorte de rivalité pour le pouvoir entre les Visigoths eux-mêmes. Donc, ça a un petit peu facilité cette conquête qui a été fulgurante. Hein,
Mouna Hachim, vous qui êtes là pour à la fois pour fondre les légendes ou les fausses légendes et puis pour amener un peu plus de connaissances rigoureuses et académiques dans le récit historique, la fameuse phrase attribuée à Tariq, aux gens, où est l'échappatoire? La mer est derrière vous, l'ennemi est devant vous. Par Dieu, il ne vous reste plus que la sincérité et la patience. C'est une parole dite ou elle a été inventée après coup?
Vous savez, vous l'avez bien citée en préambule. Vous avez repris cette citation de Fontenelle que l'histoire est une fable convenue. Ben, ça fait partie des fables convenues en matière historique. D'abord, est-ce que Tariq ibn Ziyad était arabisant? Ça, déjà, d'une chose.
Parce que c'est bien dit en langue arabe.
C'est bien dit, en plus, en langue arabe. Bon, évidemment, là, on peut se poser beaucoup de questions parce que le monde berbère était en contact avec le monde arabe. Et sans oublier qu'il y a des racines communes avec le phénicien. Donc, probablement que les berbères, du moins ceux qui étaient dans les centres urbains et dans les lieux...
Les lettrés, en tout cas.
Voilà, tout à fait, sur les voies commerciales, etc., devaient connaître. Maintenant, l'exactitude de la phrase telle qu'elle a été rapportée, sachant que l'historien n'a retranscrit les faits que pratiquement deux siècles après la conquête, ça me paraît quand même un peu difficile d'en juger de manière radicale.
On la trouve pour la première fois chez Al-Maqarri, un des historiens, et puis Ibn Khaldoun la corrobore. Revenons donc à la progression dans le sud de la péninsule ibérique. Les choses se font plutôt bien, si je puis dire, pour la conquista, on ne parle pas encore de la reconquista. Et en l'espace d'une dizaine d'années, on arrive à Narbonne, Carcassonne.
Oui,
Carcassonne est prise en 725.
Tout à fait, oui, exactement. Et donc, mais là encore, il y a des rivalités entre ces grands chefs de tribus arabes. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce que Tariq ibn Ziyad va être révoqué à Damas à cette époque-là parce que bon, il semble qu'il est gêné aux entournures le pouvoir par
le fameux Moussa lui-même qu'il lui avait donner le commandement, a pris ombrage et en est devenu jaloux.
Voilà, exactement. Sans oublier que à cette époque-là, il commençait à y avoir justement des dissidences du côté berbère. Et il y a un personnage d'ailleurs qui est passionnant. Il s'appelle Mununza, et ça montre bien justement qu'il avait noué des alliances avec Eudes d'Aquitaine, etc. Et donc ça montre un petit
il
peu...
Il a épousé même sa fille Lampégie.
Lampégie, oui, tout à fait. Oui,
je ne pensais pas que vous nous emmeneriez sur ce terrain d'alliance, mais oui, c'est vrai que...
Ça montre la complexité des alliances, au fait, et qu'il est très difficile de mettre tout comme ça en bloc... opposés, d'un côté les musulmans, d'un côté les chrétiens, ou d'un côté les berbères, d'un côté les arabes, les alliances sont tellement mouvantes et complexes à travers les siècles que, voilà. Donc, des fois, il y a des sympathies qui vont être données par le clan frère qui est en combat contre ses propres frères, comme c'est le cas, notamment, on l'avait vu avec le duc d'Aquitaine qui était en combat contre d'autres seigneurs locaux et qui va nouer des alliances avec ce grand chef berbère, lequel lui-même, après, va être en dissidence contre les Omeyyades. Donc, pour dire un peu la complexité de la chose.
Et ça va se poursuivre ainsi bien plus tard. Thank you. Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, on parle davantage d'histoire. La fresque historique dont nous avons voulu délimiter le temps, c'est le début de la conquête, de l'islamisation, de la présence d'abord de l'élément arabe, mais par la suite ça se mélangera avec l'élément berbère, avec Mona Hashim, l'essayiste, l'écrivaine, passionnée d'histoire, et dans son récent ouvrage consacré davantage au couchant lointain, c'est l'appellation du Maghreb éloigné, donc c'est du Maroc actuel, eh bien nous voyons un peu toutes les nuances de l'installation de la tradition religieuse islamique en Afrique du Nord. Mona Hashim, alors maintenant on est au premier quart globalement du 8e siècle, comment les choses vont se faire petit à petit? Un mot peut-être sur Tariq qui a été convoqué. Alors il serait mort sur la route ou une fois arrivé à Damas, on ne le sait pas.
On ne le sait pas, mais il semble qu'il soit mort dans la misère absolue en Orient.
Aux alentours de 720, oui. Si la date est bien retenue. Bon, et alors l'installation, et notamment dans ce qu'on appelle l'Andalousie. En réalité, l'Andalousie, ce n'est pas que l'Andalousie actuelle.
Pas du tout. C'est toute la péninsule ibérique, c'est une partie du Portugal. Et quand les Arabes disaient l'Andalous, ça faisait même Narbonne, même l'Aquitaine, tout ça. C'était pour eux l'Andalous. Oui, exactement.
La Septimanie en faisait partie.
Et tout à fait.
Revenons maintenant à la progression, comme ça, aussi dans l'histoire. Les révoltes se poursuivaient ou il y a eu une sorte de pacification?
Non, les révoltes se sont poursuivies, elles ont justement pris une autre coloration. Elles ont pris une coloration de dissidence religieuse, avec justement l'adoption du khalijisme. Et donc il y a eu de très très grands chefs de tribus qui ont embrassé ce mouvement et qui ont abouti à la naissance de principautés totalement indépendantes par rapport au califat d'Orient. Et c'est ainsi qu'on a vu, par exemple, l'établissement dans le sud du Maroc, 32 ans avant l'avènement d'Idriss Ier, de l'avènement de la dynastie des Bani Midrar, qui sont des Kharijites soufrites, et qui vont créer la fameuse Sijil Massa, la mythique Sijil Massa, et qui vont nouer des liens incontestés avec les Bani Rustum, Ibadites, qui sont les fondateurs de Ta'ert, qui sont aussi Kharijites.
L'actuelle Tiaret.
L'actuelle Tiaret, et qui sont, quant à eux, Khalijite, mais du groupe Ibadite, qui est différent, et qui vont nouer des alliances, même matrimoniales, puisque une des filles des Beni Rustum va épouser un des princes des Beni Midrar de Sijil Massa. Et c'est tout de même étonnant que ces principautés, elles se sont maintenues quand même pratiquement deux siècles pour la principauté des Beni Midrar et même des Beni Rustum, parce qu'elles vont être abattues par les Fatimides pour le cas des Beni Rustum, les Fatimides qui sont chiites et qui ont été appuyés pour la fondation de leur empire par les Berbères Ketama de Kabylie. Donc c'est pour dire un petit peu que la lumière n'a pas été suffisamment mise sur ces principautés, peut-être en raison de leur dissidence religieuse et peut-être aussi parce qu'elles gênaient quelque part le mythe entretenu sur des États centralisateurs, que ce soit au Maroc ou ailleurs, alors qu'on a bien vu que c'était des principautés totalement éclatées et qui vivaient une grande ère de prospérité, par exemple pour les principautés des Beni Midrar Kharijite ou des Beni Rustum.
La ville était prospère.
Oui, c'était des principautés très prospères sur les voies caravanières, et à l'époque, c'était tout le commerce qui allait vers Ouergla, etc., vers l'Est. Et donc c'était des règnes tout à fait prospères, mais qui ont vécu totalement en indépendance par rapport au pouvoir mis en place. Mais il y en avait d'autres, par exemple, dans la région de Tlemcen, il y a Abu Qura al-Marili, qui lui était adepte du soufrisme. C'est lui le fondateur de la ville d'Alger. Il avait régné sur Tobna quelque chose comme 40 ans. Il avait pris une bonne partie de l'Ifriqiya. Et donc, il était venu à la suite de grands chefs berbères qui avaient adopté aussi le kharijisme. Il y avait de tout. Il y avait, par exemple, ces principautés. On a parlé tout à l'heure des Barouata dans la région de la Tamsna. Mais il y avait d'autres types de principautés qui, elles, étaient sunnites, malikites, pour le cas, par exemple, des Beni Saleh. Les Beni Saleh, qui, eux, étaient sunnites et qui étaient alliés sans faille aux Omeyyades. On peut citer, par exemple, après, donc, bien sûr, les Idrissides vont arriver à ce moment-là. Et pour les
fondation de la ville de Fès.
Et... Exact, tout à fait. Et pour les Idrissides, là encore, il y a des interrogations sur l'obédience des premiers Idrissides, puisqu'on sait très bien qu'ils étaient descendants de Ali. Donc,
le maître éponyme étant Idriss.
Tout à fait.
C'est simplement pour expliquer l'appellation même de la dynastie. Et on est à quelle période là pour que nous comprenions?
Alors pour les Idrissides, il a été proclamé en 789. Il était arrivé en 787 au Maroc. Et donc lui, il est arrivé au Maroc dans le cadre, encore une fois, des fameuses guerres fratricides qui n'ont cessé de diviser le monde musulman. Et il faut bien être clair là-dessus. Et donc il s'est retrouvé donc après la défaite à la bataille d'Al-Fakh et après la persécution par les Abbassides. Donc il s'est retrouvé au Maroc, alors que son frère s'était évadé vers les régions du Thaïlande. Et en arrivant au Maroc, et là il y a encore un grand mythe qui est véhiculé, notamment dans les manuels scolaires et dans quelques ouvrages traditionnels, qui veut que Idriss Ier aurait été l'islamisateur du Maroc. Or, c'est totalement faux. Quand il est arrivé d'abord esselé, apparemment avec un affranchi, Rachid, pour se retrouver au sein de la puissante tribu des Auraba. Laquelle tribu des Auraba est la tribu dont Kosaïla était le chef dans les Aurès et qui a des ramifications, comme je vous l'ai dit, au Maroc. Possible que ces ramifications soient anciennes et antérieures à la période de Kosaïla, mais peut-être qu'elles seraient arrivées au Maroc dans le sillage de ce mouvement de population qui est parti vers l'ouest. Quoi qu'il en soit, Ibn Khaldoun atteste que c'était une des tribus les plus puissantes au Maroc au moment de l'arrivée d'Idriss Ier. Elle était établie dans la région de Tanger et dans la région aussi du Zarhoun, qui englobe un peu la région de Meknès, Fès, etc., toute cette région-là. Donc lui, quand il est arrivé, il a été reçu par le grand chef de la tribu, qui était Abdelhamid ibn Ishaq al-Aurabi, et qui était musulman de père en fils depuis au moins 3 générations.
Et on voit qu'au niveau du nom patronymique et même Abdelhamid, le nom est du coup islamisé.
Oui. Mohamed ibn Ishaq al-Aurabi, donc sur 3 générations, il est islamisé. Et non seulement il est islamisé, mais selon plusieurs sources, il serait adepte de l'école rationaliste des Mu'tazila. Et ce n'est pas pour rien qu'il l'ait reçu, parce qu'il y avait des concordances doctrinales avec les Ahlul Bayt, les gens de la maison du prophète dont fait partie Idriss, en tant que descendant de Ali, gendre et cousin du prophète. Et c'est cette concordance doctrinale qui fait qu'on reçoive un parfait inconnu étranger et qu'on décide de le désigner en tant qu'imam.
Oui, Mona Hashim, hélas, le temps s'écoule inexorablement. Peut-être pour les toutes dernières minutes qui nous restent, on dira un mot sur Al-Murawid et puis Al-Muhad. C'est un saut historique aussi, je sais ce que ça vous coûte pour arrêter à ce niveau.
Voilà.
Alors les Al-Murawids.
Alors les Al-Murawids, c'est en arabe Al-Murabitoun, les gens du Ribat. Le Ribat, c'est une sorte de monastère, de forteresse militaire,
oui.
Voilà, mais avec une vocation militaire, comme ça, formant des moines guerriers pour la défense et pour la propagation de l'islam. Et donc, pendant que l'ensemble du Maghreb vit avec un ensemble de principautés, de différentes obédiences, les Almoravides, eux, vont être les véritables artisans de la centralisation étatique et de cette unification, du moins du Maroc et enfin des fleuves Niger jusqu'à l'Èbre et jusqu'à Alger ou jusqu'à Bougie selon les époques. Et ils vont être portés par une grande tribu berbère, Desnahaja, qui sort des rives du fleuve Sénégal. Et d'ailleurs, le nom même Desnahaja, c'est le nom qui a été donné donc au Sénégal, Sénéga. Et de là, ils vont faire de Marrakech leur capitale, ils vont faire une poussée conquérante phénoménale vers le nord, ils vont combattre toutes ces principautés hérétiques, selon eux, selon la norme orthodoxe, y compris les Kharijites, les Bani Midrar Kharijites, les Zénètes, Maghrawa, etc., sauf les Barawata qui vont leur résister.
De par leur puissance à la fois numérique et de leur influence.
Voilà, et de leur poids économique aussi, parce qu'ils avaient des capitales. Et à la suite de ça, bon, évidemment, on sait qu'un autre prêcheur propagandiste, Mohamed Ben Toumart, sorti des montagnes de l'Atlas, va attaquer frontalement les Almoravides jusqu'à les accuser d'être anthropomorphiste, qui est l'insulte suprême qu'on puisse faire à un musulman. Et donc, du coup, demandant la guerre sainte contre ces coreligionnaires, et plutôt deux fois qu'une par rapport aux chrétiens et aux juifs.
La fameuse guerre sainte, qui est une traduction abusive du djihad, et on en parlera une autre fois. Mona Hashim, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Merci pour cette présentation édifiante, très très sommaire, mais en tout cas de l'installation à la fois des musulmans et des arabes en Afrique du Nord. Chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est toujours Daphné Abkral. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Guillaume Ledu et la réalisation a été assumée par Anne-Laure Chanel. Thank you.